Voilà, donc Ecclésiaste chapitre 1, et nous sommes à la page 435. Et avant de lire, je vais prier. Prions. Merci à notre bon Père Céleste pour ta parole. Cette parole qui est agissante, qui fait ton travail. En nous pointant vers ton Fils dans la puissance de l'Esprit. Et notre bon Père Céleste, nous avons te demandé de nous faire paître par cette parole ce matin. Parle-nous, parle à nos cœurs, débusque les mensonges que nous avons crus et aide-nous à voir la grandeur, la splendeur de ton Fils Jésus-Christ. Et nous te demandons ces choses en son nom. Amen. Alors, Ecclésiaste chapitre 1, verset 12. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le soleil, sous le ciel. C'est une occupation pénible que Dieu réserve aux humains. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et j'ai constaté que tout n'est que fumée. Et revient à poursuivre le vent. Ce qui est courbé ne peut pas se redresser, et ce qui manque ne peut pas être compté. Je me suis dit, j'ai augmenté et développé la sagesse plus que tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de connaissance. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, mais aussi la folie et la stupidité. J'ai découvert que cela aussi, cela revient à poursuivre le vent. En effet, avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa connaissance augmente sa souffrance. Je me suis dit dans mon cœur, allons, et c'est la joie, et tu goûteras au bonheur. J'ai constaté que ça, cela aussi, c'était de la fumée. J'ai traité le rire de folie et j'ai dit à propos de la joie, à quoi sert-elle? J'ai imaginé dans mon cœur de livrer mon corps au vin tout en me conduisant avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je voie ce qu'il est bon pour les humains de faire sous le ciel tout au long de leur vie. Je me suis lancé dans de grandes entreprises. Je me suis construit des maisons, je me suis planté des vignes, je me suis fait des jardins, des vergers, j'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Je me suis fait des réservoirs pour arroser des pépinières. J'ai acheté des serviteurs et des servantes. J'en ai eu d'autres nés chez moi. J'ai aussi possédé des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que n'importe qui avant moi à Jérusalem. J'ai même amassé de l'argent et de l'or, les richesses des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses, et ce qui fait le plaisir des hommes, des concubines en quantité. Je suis devenu grand, plus grand que n'importe qui avant moi à Jérusalem, sans rien perdre de ma sagesse. Je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qui réclamait, je n'ai privé mon cœur d'aucune joie. En effet, mon cœur a été réjoui par tout mon travail, et c'est toute la part que j'en ai retirée. Puis j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire. Et j'ai constaté que tout n'est que fumée, et revient à poursuivre le vent. Il n'y a aucun avantage à retirer de ce qu'on fait sous le soleil. J'ai réfléchi à ce qui caractérise la sagesse, la folie et la stupidité. En effet, que fera l'homme qui succédera au roi? N'est-ce pas ce qu'on a déjà fait? J'ai vu que la sagesse a sur la folie le même avantage que la lumière sur l'obscurité. Le sage a ses yeux bien en place, tandis que l'homme stupide marche dans l'obscurité. Toutefois, j'ai aussi reconnu que le même sort est réservé à l'un et à l'autre. Et je me suis dit dans mon cœur, j'aurai le même sort que l'homme stupide. À quoi m'a-t-il donc servi d'être plus sage que lui ? Et je me suis dit dans mon cœur, c'est encore de la fumée. En effet, le souvenir que l'on garde du sage n'est pas plus durable que celui que l'on garde de l'homme stupide. Puisque dès les jours suivants, tout est oublié. Comment se fait-il que le sage meure tout comme l'homme stupide ? Alors j'ai détesté la vie. Oui, ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. J'ai détesté tout le travail que j'ai accompli sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou fou ? Pourtant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. Cela aussi, c'est de la fumée. J'en suis venu à désespérer à cause de toute la peine que je me suis donnée sous le soleil. En effet, un homme peut travailler avec sagesse, savoir-faire et succès, et il doit laisser le produit de son travail à un homme qui ne s'est donné aucune peine pour ça. Cela aussi, c'est de la fumée. C'est un grand malheur. Oui, que retire l'homme de tout son travail et des préoccupations de son cœur, alors qu'il se donne tant de peine pour cela sous le soleil. Ses journées ne sont toutes que souffrance et son activité n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne connaît pas le repos. Cela aussi, c'est de la fumée. Le seul bonheur pour l'homme consiste à manger, à boire et à se donner du plaisir dans son travail. Mais cela aussi, je l'ai bien vu moi-même, dépend de Dieu. En effet, qui peut manger et jouir de quelque chose en dehors de moi ? Oui, à l'homme qui lui est agréable, il donne la sagesse, la connaissance et la joie. Mais au pécheur, il réserve la tâche de récolter et d'amasser des biens afin de les donner à celui qui est agréable à Dieu. Cela aussi, c'est de la fumée et cela revient à poursuivre le vent. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors j'imagine que chacun d'entre nous cherche le bonheur d'une manière ou d'une autre. Qui ne veut pas être heureux ? Blaise Pascal a écrit dans son livre « Les pensées » que tous les hommes désirent d'être heureux. Cela sans exception. Quelques différents moyens qu'ils y emploient, ils tendent tous à ce but. Ce qui fait que l'un va à la guerre et que l'autre n'y va pas, c'est le même désir qui est dans tous les deux accompagné de différentes vues. La volonté ne fait jamais la moindre démarche que vers cet objet. C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes, jusqu'à ceux qui se tuent et qui se pendent. Chercher le bonheur. Alors, est-ce que c'est le motif de toutes nos actions, comme Blaise Pascal dit ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un désir qui est très, très fort. Et ce désir nous influence tout ce que nous faisons. Et on peut se poser la question, nous, en tant que croyants, est-ce que nous sommes très différents de nos amis non-croyants ? Où est-ce que nous cherchons le bonheur ? Sans doute, nous ne sommes pas toujours très différents de nos amis non-croyants. Nous cherchons un bon travail, un travail où nous pouvons nous épanouir, où nous pouvons être appréciés, éventuellement gagner le respect des supérieurs, l'approbation, avoir le sentiment d'avoir réussi notre vie professionnelle. On veut être confortable aussi sur le plan matériel. On veut être capable de mettre de l'argent de côté pour les mauvais jours. On désire avoir une famille, être accompagné d'un époux ou une épouse qui nous aime. On veut avoir des amis. On veut un jour que les gens se souviennent de nous en bien. On veut avoir le sentiment d'avoir accompli des choses. Et nous poursuivons ce bonheur-là, parfois d'une manière acharnée, à la sueur de notre front, de diverses manières, on se donne du mal. On désire aussi ce bonheur pour nos enfants. On travaille dur pour que nos enfants puissent connaître ce bonheur, avoir une bonne vie. Mais même pour nous-mêmes, très souvent ce bonheur se révèle fuyant, très éphémère. Alors l'Ecclésiaste veut nous parler ce matin, il veut nous aider à voir clair. Comme on a dit la semaine dernière, il fait un travail pastoral, c'est un berger. On le voit à la fin du livre, il a son bâton de clous, son aiguillon. Et c'est vrai, cet aiguillon peut nous faire mal sur le moment, mais il veut nous diriger vers une relation saine avec Dieu notre Père. Et pour y parvenir, son aiguillon va faire éclater nos illusions. Il va peut-être dégonfler notre élan. Mais comme on l'a vu la semaine dernière, n'oublions pas qu'il le fait pour notre bien. Il veut nous faire du bien. Il est un bon berger qui veut prendre soin des brebis. Alors, le premier verset de notre passage de ce matin nous montre que l'Ecclésiaste a été roi d'Israël à Jérusalem. Et dans la tradition, on l'a dit la semaine dernière aussi, même si le texte ne le dit pas explicitement, tout dans le texte pointe vers le roi Salomon, le fils de David et de Bathsheba, ou tout du moins un personnage modelé sur lui. Salomon était un homme d'une sagesse extraordinaire. C'est lui qui a rédigé le livre des Proverbes. Et nous lisons dans 1 Roi 3, suite à un échange dans un rêve, que Dieu lui a donné un cœur de sagesse. Plus de sagesse que n'importe qui. Et ce matin, dans ce passage, nous allons voir sa sagesse à l'œuvre. L'Ecclésiaste cherche le bonheur, il cherche la signification dans la vie, il veut savoir comment vivre, il veut mener une vie qui a du sens, il veut être épanoui. On va voir d'abord que le bonheur n'est pas de ce monde. Le bonheur n'est pas de ce monde. Ensuite, on va voir pourquoi, parce que la mort rend nos œuvres futiles. Troisièmement, à la fin, on va voir qu'il y a quand même un bonheur. Il y a un bonheur d'en haut. Donc on va commencer avec le bonheur n'est pas de ce monde. Et on voit dans le passage que l'Ecclésiaste commence avec ce qu'il connaît le mieux, la sagesse. Il est un homme d'éducation. En tant que roi, il a été en quelque sorte ministre de l'éducation nationale d'Israël. On découvre au verset 13 qu'il a appliqué son cœur à rechercher et à explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le soleil. Il s'est sans doute intéressé à la science, à la philosophie, aux lettres, au génie civil, à l'art de faire la guerre, à tout. C'est un homme qui, dès le début de sa vie, savait en quelque sorte qu'il était destiné à faire un bac S, intégrer un bon lycée, Jean-Henri IV, qu'il devait faire des classes prépa, entrer dans une école prestigieuse avant de faire un jour l'ENA. Il visait le Collège de France, en quelque sorte. Et l'Ecclésiaste s'est donné du mal. Il était un homme érudit. C'est ce qu'on voit au verset 16. « J'ai augmenté et développé la sagesse plus que tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de connaissance. » On voit un peu plus loin qu'il a même étudié la folie, la stupidité, histoire de vraiment savoir ce que c'est la sagesse. Mais sa conclusion, cela revient à poursuivre le vent. Alors peut-être que vous êtes actuellement en train de préparer le bac ou vous êtes en plein cursus universitaire et ces mots peuvent vous surprendre un tant soit peu. Oui, Ecclésiaste veut percer nos illusions. Nos études, aussi poussées soient-elles, ne nous donneront pas le bonheur escompté. tant désiré. Loin de là. Plus on étudie, plus on réalise que notre connaissance est limitée, piètre. Il s'agit d'une montagne insurmontable. On n'arrive jamais au sommet. En plus, à force d'étudier ce monde, nous voyons ce qui ne va pas. On voit la misère. On voit la corruption, la haine, la pollution. Et on voit notre incapacité de changer ces choses. C'est ce qu'il constate au verset 15. C'est un peu son constat. Ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Et ce qui manque ne peut pas être compté. Il reconnaît notre impuissance de changer les choses. Au verset 16, nous voyons que cela l'a amené au désespoir. En effet, dit-il, avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. L'éducation, la sagesse, la connaissance, en fait, ce n'est pas ça ce qui va fondamentalement changer notre condition humaine. Alors les ministres d'éducation vont nous donner l'impression que notre avenir, l'avenir de nos enfants, dépend de la qualité de l'éducation. Mais en fait, l'éducation n'élimine pas les maux de la société. C'est illusoire, futile. C'est pas ça ce qui va nous donner la satisfaction tant espérée. Les parents d'entre nous feraient bien de noter ça. On peut avoir tendance à pousser nos enfants à l'extrême sur cette voie de l'éducation. Il faut décrocher les meilleurs diplômes, il faut ça, il faut faire les meilleures écoles. Histoire de leur donner un avenir heureux. Mais non. Certes, Dieu n'est pas contre l'éducation, il n'est pas contre la sagesse. En quelque sorte, on le voit au verset 13, c'est lui qui nous a donné cette tâche. Il veut qu'on s'informe, qu'on devienne sage. Mais en même temps, on voit que c'est une occupation pénible. En fait, ça nous conduit à reconnaître nos limites, à être humbles devant Dieu. L'Ecclésiaste, après l'éducation, après les études passées, passe à la folie. Nous sommes là maintenant au chapitre 2, verset 1. Et l'Ecclésiaste a dit, « Je me suis dit dans mon cœur, allons, et c'est la joie, et tu goûteras au bonheur. » J'ai constaté que cela aussi, c'était de la fumée. La folie ou la joie ici, dans ce contexte, c'est le fait de faire la fête. Au verset 3, l'Ecclésiaste, dans sa quête raisonnée, se donne par exemple à l'alcool. C'est peut-être pas aussi clair dans cette version, mais je crois qu'il se donne vraiment à l'alcool, mais il le fait dans cette quête raisonnée. Et dans un sens, c'est l'opposé de la voie de l'éducation. Et pourtant, en tout cas dans mon expérience, les étudiants se livrent beaucoup à l'alcool, à la drogue, aux fêtes. Et c'est une manière d'oublier notre condition humaine. C'est une manière de dire, la vie est courte, profitons-en, faisons la fête, soyons dans la joie. Mais on sait, le lendemain, ce n'est plus la fête. Tout se dégonfle, ça ne dure pas, c'est juste une illusion, c'est un mirage qu'on a construit. Le rire, c'est ce qu'on voit un peu plus loin, la comédie, le divertissement. Oui, tout ça a sa place, heureusement. Mais il n'y a pas de satisfaction consistante là-dedans. J'aimais bien l'humoriste, le comédien Robin Williams, celui qui a joué dans le film Madame Doubtfire. Je le trouvais marrant, c'était un bon acteur. Il avait du talent. Il s'est suicidé en 2014 à la suite d'une sévère dépression. Le rire, la comédie, c'est très limité. Même en tant que croyant, je trouve que nous pouvons être tentés de remplir nos esprits de divertissement, de séries télévisées, de jeux sur Internet, de l'Internet tout court, de choses que nous consommons, en quelque sorte pour que nous n'ayons pas à vivre dans ce monde avec notre condition humaine, dans ce monde tel qu'il est. Il y a une place pour tout ça. mais le bonheur, la satisfaction n'est pas là. De manière ultime, c'est creux. Je suis sûr qu'à la fin de ma vie, je ne vais pas me dire « Trevor, c'est dommage, tu aurais dû passer plus de temps sur Facebook ». Dans les versets 4 à 9 du chapitre 2, l'Ecclésiaste revient sur ce qu'il a fait dans la vie. Il est peut-être âgé. Il a fait des choses extraordinaires, choses que sans doute nous, on n'est pas des rois, donc on ne va jamais avoir l'occasion de faire. Lui avait des moyens. On voit qu'il a fait construire des palais, des châteaux. Il a planté des jardins dignes de Versailles. Et le vocabulaire du texte laisse à penser qu'il voulait en quelque sorte, par ses efforts, reconstruire une sorte de jardin d'Éden, une sorte de paradis. Il avait toute une armée de serviteurs, de servantes. Il avait des troupeaux de bœufs, de brebis. En fait, il était un homme fabuleusement riche. Il aurait fait la une du magazine Challenge ou Fortune. Il aurait été classé avec les plus grosses fortunes du monde, avec Bill Gates, George Soros. En fait, il était le Louis XIV de l'époque. Il a vu les choses en grand. Il a entrepris de grandes choses avec succès. Et à partir du verset 8, nous apprenons qu'avec sa richesse, il ne s'est privé de rien. Il avait des chanteurs, il avait des concubines en grande quantité, il faisait la fête. Il ne se privait pas de plaisirs sexuels. Il se donnait, se livrait à ça. Verset 10, « Je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'il réclamait. Je n'ai privé mon cœur d'aucune joie. » Il a profité de la vie, comme on dit. Il a tout eu. Il aurait été là tous les ans, sur la croisette à Cannes. Son yacht aurait été le plus grand là sur la Côte d'Azur. Alors l'Ecclésiaste ne nie pas qu'il a quand même retiré quelque chose de tout ça. La fin du verset 10 nous dit « En effet, mon cœur est réjoui par tout mon travail. C'est toute la part que j'en ai retirée. » Son travail lui a donné une certaine joie. Le fait de faire ce travail, l'action elle-même, ou peut-être le produit de ce travail. Une jouissance réelle, mais très limitée. Parce qu'après, une fois qu'il a réfléchi, peut-être vers la fin de sa vie, peut-être pendant, lors de sa retraite, quand il a vraiment pesé les choses, il a conclu en ajoutant, verset 11, puis j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire. Et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Il n'y a aucun avantage à retirer de ce qu'on fait sous le soleil. Et là, on parle de quelqu'un qui, humainement parlant, a tout réussi dans la vie. Il était au sommet de l'État, il a fait des choses grandioses, il a marqué son époque. Il a marqué l'histoire. Peu de nous vont prétendre à de telles fonctions. Et peut-être nos carrières ont été plutôt marquées par des épisodes difficiles, par le chômage, par des chefs pénibles, par l'ennui, par la fatigue des déplacements en Île-de-France, peut-être des problèmes financiers. Mais tout lui a réussi. Lui, par contre, a connu la gloire. Mais il conclut, j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Il s'était dit, à quoi est-ce que tout ça a servi finalement? Je me suis donné du mal, j'ai travaillé comme un fou, mais à quoi bon? Ça a donné quoi à la longue? L'Ecclésiaste veut percer nos illusions. Il veut dégonfler nos aspirations professionnelles et personnelles. Vous cherchez peut-être le bonheur, la satisfaction, l'épanouissement, une vie réussie dans le domaine de l'éducation, dans votre métier, dans votre vie de famille, dans le plaisir, dans la vie sociale. Mais l'Ecclésiaste nous dit que tout ça ne fera pas l'affaire. Oui, vous allez éprouver une certaine joie avec ces choses. Mais à la fin, toute réflexion faite, on va voir si pas tout ça. Pourquoi ? Et c'est notre deuxième point. Deuxième point nous montre le pourquoi du désespoir de l'Ecclésiaste. Qu'est-ce qui a rendu tout ça fade, éphémère et creux ? Comme on a vu dans le passage précédent, c'est la mort qui rend tout ça futile, fade, éphémère. L'Ecclésiaste admet que c'est quand même mieux de vivre une vie sage, verset 14, le sage a ses yeux bien en place, tandis que l'homme stupide marche dans l'obscurité. Mais tout de suite après, il ajoute, « Toutefois, j'ai aussi reconnu que le même sort est réservé à l'un et à l'autre. » Et je me suis dit dans mon cœur, j'aurai le même sort que l'homme stupide. À quoi m'a-t-il donc servi d'être plus sage que lui ? Et je me suis dit dans mon cœur, c'est encore de la fumée. Qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, des choses glorieuses ou pas, que nous ayons beaucoup travaillé ou vécu au crochet de la société, en fait, nous allons tous connaître le même sort. La mort nous attend tous. Et dans cette section, l'Ecclésiaste médite sur la mort, et en particulier sur sa propre mort. Je ne sais pas si ça vous arrive de faire ça, de penser à votre mort. On vit dans une société où la société ne veut pas vraiment entendre parler de la mort. On fait tout pour ne plus y penser, pour évacuer ça. On veut vivre pour le moment présent, en éloignant toute pensée en lien avec la mort. En fait, c'est l'athéisme pratique de notre société à l'œuvre. S'il n'y a que cette vie, s'il n'y a que ça, ça ne sert à rien de penser à la mort. Autant profiter du moment présent. Mais l'Ecclésiaste veut qu'on médite là-dessus. Et n'oublions pas que c'est son travail pastoral. Il veut nous aider à mieux vivre à la gloire de Dieu. Et si nous allons faire ça, nous devons comprendre que nos vies sont limitées, courtes, que nous sommes mortels, que le jour de notre mort arrivera, tôt ou tard, et que la perspective de cette mort relativise bien des choses. Verset 16. En effet, le souvenir que l'on garde du sage n'est pas plus durable que celui que l'on garde de l'homme stupide, puisque dès les jours suivants, tout est oublié. On sent du mal, on se hisse vers le haut. Certains font tout pour être reconnus des autres. Mais c'est l'oubli qui nous attend tous. Le maire de la Garenne-Colombes aime bien inviter les enfants à la cérémonie du 11 novembre. Il les invite à lire les noms de ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur dans les guerres. Et il invite les enfants à choisir un nom et à penser à cette personne, ce soldat, tout au long de cette journée. Mais quand on y pense, même cet exercice-là, même ce souvenir-là est futile, vain. Les enfants ne connaissent pas ces jeunes qui sont morts il y a 100 ans. Lors de la cérémonie, on dit quelque chose comme « à nous le souvenir, à eux l'immortalité ». Et ça sonne beau. Mais en fait, c'est notre tentative de donner du sens à cette tragédie. L'Ecclésiaste dit que tout ça, c'est poursuivre le vent. C'est futile. Tout est oublié. La mort, c'est la conséquence du péché. C'est la malédiction de Dieu. Nous l'avons dit la semaine dernière, ce monde a été soumis à la futilité. Et au centre de cette futilité, il y a notre mort. On est tous, en quelque sorte, dans un couloir de la mort. Et cette mort rend nos œuvres futiles. L'Ecclésiaste, on le voit ici, il est inconsolable face à la réalisation que quelqu'un d'autre, quelqu'un qui vient après lui, va bénéficier de tout ce qu'il a fait, de toute la richesse qu'il a accumulée. ça va être quelqu'un qui n'a pas travaillé pour ça. Ça va être peut-être quelqu'un qui est un peu fou, qui va gaspiller ça. Peut-être un enfant gâté. Le projet de l'Ecclésiaste n'est pas de nous pousser à chercher des médicaments auprès de notre médecin généraliste demain matin. Mais il veut quand même percer nos illusions. Pourquoi ? Pour qu'on ne s'adonne pas de manière acharnée à ce qui ne peut pas nous satisfaire. Il ne veut pas qu'on arrive à la fin de nos vies dans l'amertume, dans la désillusion la plus totale. « Ah, j'ai fait tout ça, mais à quoi bon ? Ça a servi à quoi ? Je me suis fatigué à me hisser vers le haut, mais bon, c'était une perte de temps. » On va terminer avec le troisième point et les derniers versets de notre passage. Il y a un bonheur et ce bonheur vient d'en haut. Alors les versets sont un peu difficiles, mais ô combien rafraîchissants. Nous en avons besoin. Nous voyons dans ces versets que l'Ecclésiaste n'est pas un athée. Il parle de Dieu. Il parle de lui en bien. Il parle de lui comme un bon créateur généreux. Le seul bonheur, verset 24, pour l'homme, consiste à manger, à boire et à se donner du plaisir dans son travail. Mais cela aussi, je l'ai bien vu moi-même, dépend de Dieu. En fait, on peut traduire, ça vient de Dieu. C'est un don de Dieu. Verset 25, en effet, qui peut manger et jouir de quelque chose en dehors de moi ? Ou selon les manuscrits, en dehors de Dieu, c'est Dieu qui donne ces choses. Et l'Ecclésiaste nous invite à avoir une perspective axée sur Dieu, une perspective qui reconnaît que c'est Dieu qui nous a tout donné. Jésus-Christ nous enseigne ça aussi. Il nous enseigne que Dieu est un Père généreux qui se plaît à donner de bonnes choses à ses enfants. Alors l'Ecclésiaste nous invite à changer de perspective sur la vie. Au lieu de chercher dans notre travail, dans nos œuvres, dans la poursuite de choses, dans la poursuite d'expériences, de chercher dans ces choses-là notre satisfaction, il nous invite à la reconnaissance simple, une reconnaissance envers Dieu pour tout ce qu'il nous donne dans la vie, même cette vie marquée par le mal et le malheur. Et cette reconnaissance toute simple change la vie. On le reconnaît en chantant le cantique « Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Dans un sens, l'Ecclésiaste nous invite à respecter le sens du sabbat. Nous travaillons pendant 6 jours, mais le 7e jour est un jour à part, pour Dieu. C'est parce que notre signification ultime n'est pas dans notre travail, mais dans notre relation avec Dieu. Il est notre Créateur. Et la vie est ultimement un don. Même cette vie touchée de plein fouet par la futilité, par la mort, la vie est ultimement un don de Dieu. Jésus nous a enseigné quelque chose de semblable. Matthieu 6. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobe. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et le trésor qu'est l'Évangile est un don de Dieu, un don de la part de Dieu. Notre Père nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, Jésus. Jésus lui-même s'est donné pour que nous puissions recevoir le pardon. Pour que nous puissions par la foi recevoir sa justice, être revêtus de sa justice, et du coup connaître avec Dieu une relation de paix et d'amour. C'est un don, un cadeau. Et j'espère que c'est un cadeau, un don que vous avez accepté. Un cadeau qui est maintenant votre trésor. Nous devons vivre la vie comme un don qui est donné de la part de Dieu. Et surtout recevoir le don vivifiant de son Fils. Les derniers versets du passage parlent du fait que Dieu arrache des pécheurs tout ce qu'ils ont récolté pour les donner à celui qui plaît à Dieu. Tout ça est sûrement vrai en Jésus, en Christ, parce que c'est lui qui a l'approbation de son Père. Et c'est à lui que Dieu a tout donné, au ciel comme sur la terre. Et par la foi en Christ, avec Christ, nous allons hériter la terre. C'est ce que Jésus nous dit au début du sermon sur la montagne. « Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. » En Jésus, par la foi en lui, nous avons tout, nous avons déjà tout. En lui, nous sommes à Dieu, et Dieu est à nous. En Christ, nous avons des joies consistantes, et nous avons des trésors qui durent. En lui, en Jésus, Dieu nous donne aussi des œuvres à faire, ses œuvres. Nous avons chacun des œuvres différentes à faire. Même si de manière globale, ça renvoie à une vie vécue à la gloire de Jésus-Christ. Et cette œuvre-là n'est pas vaine, n'est pas futile. Elle dure jusqu'à dans l'éternité. On cherche tous le bonheur, la satisfaction, l'épanouissement. Notre tendance invétérée, c'est de chercher ces choses dans cette création plutôt que de les chercher auprès de notre Créateur, dans notre Créateur. Nous cherchons tout ça dans notre travail, dans nos carrières, dans nos familles, dans notre réputation, dans notre confort. Et on se donne du mal pour avoir ces choses. Nous pensons à tort que ces choses vont nous aider à réussir la vie. Mais si on mise là-dessus, c'est l'amertume, c'est le désespoir qui nous attend. Un homme sage, une femme sage, reçoit la vie et tout ce qu'on vient d'évoquer, le travail, la nourriture, nos logements, nos familles. Il reçoit ces choses comme un don de notre bon Père Céleste. Il remercie Dieu pour ces choses. Même si on reçoit ces choses dans le cadre d'une vie qui, de manière globale, est marqué par le péché, touché par la futilité. Un homme sage reçoit de la part de Dieu le don de son Fils. Et on a tout en lui. Le croyant vit les douleurs de cette vie avec ses yeux fixés sur Christ, dans la joie de la reconnaissance. En lui, Dieu notre Père nous a donné un sauveur parfait. Bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Je vous invite à la prière. Prions. Notre bon Père Céleste, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu nous donnes. Nous avons des logements, nous avons de la nourriture à manger. Nous avons des familles, nous avons des amis, nous avons des frères et sœurs. Et surtout, nous avons ton Fils. Tu nous as donné ton Fils. Nous avons un Sauveur extraordinaire, un Sauveur parfait, qui s'est donné pour nous sur la croix, qui a tout fait pour que nous puissions être à toi, pour que nous puissions connaître ton amour. Et notre bon Père Céleste, nous voulons te louer, te remercier pour lui, pour tout ce que tu nous donnes. Et notre bon Père Céleste, nous voulons également te dire pardon, parce que, comme des fous, nous cherchons notre satisfaction, notre épanouissement, notre raison d'être dans les choses de cette création, dans notre travail, dans nos familles, dans nos biens matériels, dans nos carrières, dans nos rêves professionnel. Père, nous voulons te dire merci pour ces choses. Ces choses viennent de toi. Mais Père, aide-nous à ne pas miser sur ces choses. Donne-nous de nous détourner de cette idolâtrie, de cette dépendance. Et donne-nous de fixer nos yeux sur ton Fils, à recevoir la vie comme un don. Et surtout de recevoir la vie en ton Fils comme un don. Nous avons besoin de ton aide. Aide-nous cette semaine à vivre de manière sage, à ta gloire, avec de la reconnaissance dans nos cœurs. Amen.